It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains, avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. There, The Anonymous Project, c'est le titre d'un très beau projet photographique de Lee Schulman et de Omar Victor Diop et d'un très beau livre qui vient de paraître aux éditions textuelles. Je reçois Taous Damani, historienne de l'art, écrivaine et commissaire d'exposition, dont les travaux portent sur les liens entre photographie et lutte politique, et en particulier sur les récits migratoires et intersectionnels. Bonjour Taous Damani.
Bonjour et merci beaucoup pour ton invitation et ton accueil.
C'est un plaisir parce que lorsque j'ai lu ta bio, ça m'a donné envie d'en savoir aussi un peu plus sur toi. Déjà que le projet, j'ai eu un très gros coup de cœur sur ce livre que tu as préfacé. Donc j'imagine que ça t'a demandé une certaine immersion et que du coup, tu vas pouvoir nous en parler. C'est en fait, ce projet, c'est le fruit d'une collaboration entre deux artistes déjà bien connus dans leur domaine respectif. Le réalisateur Lee Schulman, créateur donc de The Anonymous Project, et Omar Victor Diop, autoportraitiste sénégalais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu le concept? Parce que c'est vrai qu'il faut rentrer un peu dans... C'est quand même une histoire un peu en poupée russe, toute cette histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà donc un peu le concept de The Anonymous Project au départ?
Oui, alors bien évidemment, je ne peux pas parler pour Lee Schulman qui est l'expert de son propre projet. Oui. Mais l'idée, pour être le plus efficace possible, est que Lee collectionne des photographies dites vernaculaires, ce qu'on appelle des photographies dites vernaculaires, c'est-à-dire des photographies qui sont d'un moment, d'une communauté, c'est-à-dire, et les photos de famille font partie de ce projet, des photographies qui sont donc intimes, qui représentent la vie quotidienne, comme on a tous dans nos albums ou dans nos téléphones, maintenant peut-être plus.
Oui.
Et donc, ce sont des photographies qui sont trouvées. Donc, Lee ne connaît pas les auteurs ou autrices de ces photographies, mais porte un regard sur ces photographies parce qu'il... il voit quelque chose d'intéressant dans la représentation de ce quotidien.
Donc, si j'ai bien compris, il s'est passionné pour ces photographies anonymes, en fait, sans savoir qui les avait prises, mais qui sont tous de la même période, de la même époque, je crois, des années 50-60, c'est ça?
Oui, en fait, il collecte, il préserve, il numérise. Je sais qu'il garde ça de manière comme une archive presque professionnelle ou institutionnelle. Et c'est toujours soit des négatifs, je crois, et des diapositives. Et c'est pour ce projet-là, c'est effectivement les années 50-60, mais je crois que Anonymous Project, dans son entièreté, c'est plus vaste. Disons que c'est à partir de la seconde moitié du XXe siècle, presque jusqu'à nos jours, je crois.
Oui, et je crois qu'il est autour du million de photos.
Il doit en avoir énormément, oui.
C'est assez impressionnant. Et donc, à partir de là, il a créé déjà un ou plusieurs projet, je crois, en utilisant ce matériau, si on peut dire, c'est ce matériau de ces photographies qui peuvent sembler banales et en fait, il accroche notre regard avec des angles, en faisant quelque chose de particulier.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert le travail de Lee et son activité lors d'une expo à Arles aux rencontres photographiques qui s'appelait donc The House, la maison. Et je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de voir cette exposition, mais c'était...
Malheureusement, non. J'ai vu que tu avais travaillé, oui, effectivement, aussi sur les rencontres,
oui,
mais... les fameuses rencontres.
Oui, c'était l'édition de 2019, je crois, oui. The House. Et c'était vraiment assez incroyable parce que du fait de son identité de réalisateur, liée à la capacité de proposer des projets tout à fait immersifs. Et l'exposition de House permettait vraiment de s'immerger réellement dans une maison qui avait été presque reconstituée à travers, comme ça, ces photographies anonymes. C'était un projet tout à fait intéressant.
Maintenant, le concept de ce projet avec Omar Victor Diop, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et on va après entrer un peu plus en détail sur pourquoi c'est tellement intéressant et pertinent aussi.
Oui, bien sûr. Je crois que Lee et Omar étaient amis d'abord et puis à travers plusieurs conversations ont eu cette idée-là de collaboration. Donc c'était donc une invitation liée à le goût de la collaboration et a déjà collaboré avec d'autres artistes et photographes par le passé et donc a invité Omar à réfléchir avec lui à ce projet qui est donc devenu, comme tu le décrivais, ce livre publié chez Textuel. Et donc c'est un processus qui est tout à fait intéressant parce qu'il y a d'abord une sélection bien évidemment dans la collection de Lee, de ces images de famille, de ces images vernaculaires. Et ensuite, il y a tout un travail digne des plus grandes productions hollywoodiennes de reproduction, disons, incarnée donc, par Omar Victor Diop. Donc, il y a une sélection collaborative. Et ensuite, ensemble, ils pensent à des petites donc, scénettes qui vont repenser. Et Omar Victor Diop, à la fois artiste et ici acteur aussi, quelque part, va venir incarner un personnage. Et ce personnage va venir s'incruster sur ses photographies. Donc, c'est bien entendu un travail de production assez important où il faut trouver les bons costumes. Il y a un fond vert et puis ensuite, c'est la magie, bien entendu, de nos technologies qui permettent de donner l'illusion de la présence d'Omar Victor Diop au sein de...
Dans
ses familles, oui. Des années 50, ouais.
Blanche,
tout à fait. Omar Victor Diop étant né au Sénégal et donc noir.
Voilà. Et donc, comme le résume bien le petit texte de présentation du livre, Diop s'immisce ainsi dans des univers où il n'a pas été invité dans le contexte de l'Amérique ségrégationniste d'après-guerre, comme s'il avait toujours fait partie du cadre. Shulman et Diop proposent une nouvelle façon d'agiter les esprits et d'interroger les représentations avec humour. Leur performance fonctionne comme un révélateur. Alors, comme on est en radio et que malheureusement, bon, moi je vais mettre des liens hein, dans le texte de descriptif du podcast pour aller vers le site de Textuel, puisque j'ai vu qu'on peut faire défiler et voir justement quelques photos, parce qu'il faut vraiment les voir, ces photos, c'est impressionnant. Et on sourit aussi, même si quand on repense au contexte et à tout ce qui s'est passé entre les photos et aujourd'hui, à tout ce qui reste à faire. Et bon, il y a plusieurs dimensions après le sourire, on va dire. Est-ce que tu peux nous en décrire deux, trois des photos, peut-être pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs de quoi on parle.
Oui, et d'abord, avant peut-être de décrire, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je crois que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui m'a toujours beaucoup plu, notamment dans le travail de Omar Victor Diop. Oui. Cette manière, peut-être même cette stratégie d'accueillir le regardeur, le spectateur, de le prendre par la main aussi avec le sourire, avec le beau, avec la question de l'esthétique, pour ensuite, dans un deuxième temps, l'inviter à réfléchir. Et ça, je crois que c'est une très belle manière de faire dans un monde très polarisé, comme tu le décrivais, qui a du mal parfois.
Et très violent.
Oui, et qui a du mal à se parler parfois. Et donc, donc du coup, il y a des choses intéressantes qui jouent là, dans ces stratégies artistiques. Pour la description, je vais peut-être prendre ma copie du livre et puis regarder certaines des images. Il y en a une, là, j'ouvre...
Je prends la mienne. Tu peux me dire la page, comme ça, je vais aller...
Alors, il n'y a pas de numéro de page, malheureusement.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, effectivement.
Mais je peux t'en décrire quelques-unes. Il y en a une, moi, par exemple, qui me fait sourire. On est donc clairement en montagne. enneigée. On a une femme de dos avec un manteau rouge et un sac à main. Et puis, on a à droite, à ses côtés, Omar Victor Diop, en tenue de montagne de l'époque.
De l'époque, oui. Avec les skis de l'époque.
Avec les skis de l'époque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien se rendre compte du boulot de prod derrière du duo. Pour avoir trouvé tous ces vêtements. Et d'ailleurs, Omar me disait récemment qu'il était déçu de ne pas avoir pu garder tous ses vêtements.
Oui, j'ai lu ça, oui.
Et donc,
qui lui faisait penser à son père, d'ailleurs. Oui. J'ai lu qu'il s'était senti presque être son père en s'habillant avec des vêtements de cette époque.
Oui, tout à fait. Et donc, bonnet sur la tête, lunettes de soleil, et qui pointe du doigt l'horizon. Bien évidemment, il y a plusieurs contrastes qui font sourire ici. Bien sûr, Omar qui incarne ici un Sénégalais perdu en haut de la montagne. Et puis, bien sûr, ce geste de pointer du doigt quelque chose que je trouve tout à fait intéressant par sa polysémie, qui veut dire un tas de choses, bien évidemment, vu que le livre pointe du doigt plein de choses.
Oui, et cette photo particulièrement m'a fait penser à... J'avais vu un petit film de James Baldwin qui était dans un village suisse.
Ah oui, bien sûr.
Tu connais? Oui. Et où il raconte justement, parce qu'il arrive, et bon, alors c'est aussi à l'époque, hein, sûrement 50-60, je ne sais pas, enfin entre les années 50 et 70, j'imagine. Et il arrive dans ce village, enfin il est encore jeune, hein, il est tout en mitouflé et il est... Il est perçu comme vraiment l'étranger par sa couleur de peau. Donc, il décrit toutes ses réactions et aussi la tristesse que ça provoque chez lui.
Oui, tout à fait. James Baldwin a séjourné donc en Suisse, je crois que c'est au début des années 60, et a écrit un texte qui s'appelle « Un étranger dans le village ». Et c'est bien entendu ce qu'il décrit, ce qui fait aussi penser à Frantz Fanon, cet enfant qui passe devant lui et qui crie, et excusez-moi du mot qui n'est plus approprié de nos jours, mais nègre. Oui. Et donc là, il y a l'aspect révélateur de la différence, bien entendu, de l'altérité. L'enfant qui vient pour lui toucher ses cheveux crépus. Et cet essai est vraiment, vraiment frappant, vraiment fort. D'ailleurs, j'invite... toutes les personnes qui ne le connaissent pas à le voir. Et bien évidemment, il y a cette évocation de Baldwin dans cette image, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aussi parce que Omar Victor Diop et le personnage qu'il incarne dans cette photographie en montagne se voient donc du coup complètement, excuse-moi, le mot me vient qu'en anglais, surrounded, entouré, il se voit complètement entouré par la blancheur de la neige, qui vient aussi fonctionner comme une métaphore pour le pays de l'époque.
Oui, oui. Une autre photo ?
Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs, des sympas.
Oui, il y en a plein. c'est vraiment un régal, ce livre.
Oui, peut-être qu'on peut s'arrêter sur une qui est peut-être se situe un peu plus au début du livre, oui. Qui est donc Omar, en tout cas le personnage incarné par Omar, à la plage, à la mer même. Le photographe est à les pieds dans l'eau. Et puis, il y a une femme blanche aux cheveux gris, qu'on décrirait plutôt ronde, et qui regarde le personnage incarné par Omar, qui s'amuse dans les vagues, avec un air à la fois amusé et peut-être un petit peu choqué par la liberté de ton et de geste du personnage. C'est encore une fois tout à fait amusant de voir la manière dont les regards, les gestuels ont été vraiment, soignés par
oui, oui.
Une autre qui m'intéresse aussi beaucoup et qui joue encore une fois, il y a beaucoup d'images où le duo joue avec le fait que Omar tient dans ses mains aussi un appareil photo ou une caméra. Le geste d'enregistrement est performé à plusieurs égards. Et puis il y en a une qui m'a beaucoup intégrée parce que tu mentionnais la préface, peut-être pas la préface, mais en tout cas un texte que tu avais lu qui disait que le livre fonctionnait comme un révélateur sociopolitique, disons. J'aime beaucoup aussi les moments où Lee et Omar travaille sur l'absence de sur le non-voir, disons. Et il y a une image qui se situe plutôt à la fin du livre, assez classique, une scène d'anniversaire d'un certainement petit garçon, vu que la bougie indique un 2 ans, avec la famille, les frères, les oncles, le père, la mère. Et Omar s'incruste donc du coup dans cette scène, et un ballon d'anniversaire cache son visage. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'il se, là, alors, il s'invite dans cette famille, il devient membre de cette famille, mais de la même manière, le ballon d'anniversaire, qui fonctionne comme un décor à la fête, vient obstruer son visage. Donc, il est là sans être là. Et je trouve ça aussi intelligent d'un point de vue de ce qu'on essaie de raconter ici dans ce livre. Tu as peut-être une préférée, toi ?
Il y en a trop, en fait. Moi, je ne peux pas l'écrire. Je trouve ce travail tellement réussi à plein d'égards. Je trouve assez drôle, les photos de plage aussi. Qu'est-ce que j'ai vu ?
Il y a aussi des images qui sont peut-être un peu moins drôles si on connaît aussi le contexte des années 50 aux États-Unis, notamment sur la question des couples mixtes qui étaient bien entendu interdits jusqu'à l'arrêt Loving contre Virginia, où Omar incarne le mari, disons, et que la femme est une femme américaine blanche. Qui sont peut-être pas étonnantes en 2023, mais l'aurait été même illégale à une certaine époque aux États-Unis.
Celle-ci, elle semble toute simple, mais moi je la trouve assez drôle.
Oui, à la fenêtre.
Oui, à la fenêtre avec ce mur en brique.
Oui, et cette image, donc, c'est on voit un mur en brique avec une fenêtre. La photographie est cadrée autour de cette fenêtre, et puis il y a une famille. D'ailleurs, on se demande quels sont les rôles, qui est la mère, qui est la tante, qui est l'amie, qui est la fille de qui. Ce que je trouve tout particulièrement intéressant, et c'est là où le travail de Lee et Omar est tout à fait impressionnant, c'est que il y a une expression en anglais qui dit que le détail est dans le devil's in the details, c'est-à-dire
le diable est dans les détails.
Ça se dit en français aussi. Le diable est dans les détails. Où la photographie, la fenêtre du centre est un peu teintée. Et donc, qui donne une autre aspect à la couleur de la peau des trois filles du milieu.
Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas remarqué, effectivement.
Et donc,
un peu rouge.
Et c'est ça. Et donc, du coup, il y a bien évidemment une remarque sur la technicalité photographique de l'époque, sur ce que eux peuvent faire aujourd'hui, mais aussi bien évidemment sur la question du filtre, hein, la question de comment on voit la société, la métaphore du filtre encore une fois, et du regard et les filtres qu'on a sur nos yeux et des filtres peut-être sociopolitiques qu'on peut avoir aussi. Moi, j'y vois plein de métaphores dans ce livre et chaque photographie est possiblement un essai en soi.
Celle-ci aussi, où ils sont en train de regarder des vinyles, donc il y a une vieille télé de l'époque, hein, on voit plein de choses qui seraient collecteurs aujourd'hui, et en fait on voit ces pochettes de vinyles où à l'époque il y avait beaucoup d'artistes noirs qui étaient dans les meilleures ventes, et quand on lit un peu tout ce qu'ils pouvaient endurer à l'époque, on pouvait trouver dans une famille, là on voit cette dame donc américaine, blanche, de ces années sûrement 50 là, qui est en train de regarder ses vinyles, et ils sont assis par terre, et à l'époque, ce qui est drôle, enfin c'est pas drôle, c'est terrible, mais dans cette photo, évidemment, il y a sûrement des vinyles de grands artistes noirs de l'époque, mais qui pouvaient être dans le salon en tant que vinyle, mais qui n'auraient pas pu être dans le salon, puisqu'ils n'avaient même quand ils devaient chanter quelque part, ils devaient passer par des portes, enfin, ils pouvaient pas rentrer par la salle, parce qu'il ne fallait pas qu'ils cohabitent même 5 minutes, il ne fallait pas qu'ils soient dans le même espace que les personnes blanches qui venaient les voir chanter. Enfin, c'est tellement dingue quand on y pense aujourd'hui à tout ça.
Tout à fait.
Et là, de le voir en train de regarder, assis avec cette dame, en train de regarder gentiment, de se montrer les pochettes de vinyle, je trouve ça assez, assez fort aussi.
Oui, et je crois que ce qui est intéressant avec ce projet, c'est de ne pas faire de grandes déclarations sur de grands moments historiques, ce qui a pourtant été aussi un aspect important du travail d'Omar Diop seul. Mais c'est peut-être regarder comment l'histoire impacte les petites histoires, comment l'histoire et les décisions politiques et les lois impactent le quotidien dans sa banalité la plus totale.
Et d'ailleurs, tu notes dans le texte de préface que dès le 19e siècle, deux célèbres abolitionnistes réclament quelque chose pour les Noirs américains et les photos récupérées par Lee Shulman témoignent du fait qu'en fait, plus de 50 ans plus tard, ça n'avait pas beaucoup bougé. Et tu écris, on comprend ici la puissance troublante de la présence d'Omar Victor Diop dans ces images. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette mise en perspective dans le temps par rapport à ces deux abolitionnistes et ce qu'ils ont dit à l'époque, que je vais te les laisser nous réexpliquer, et ce que tu évoques, c'est-à-dire en quoi la présence d'Omar Victor Diop dans ces images est d'une puissance troublante?
Oui, bien sûr. Frédéric Douglas est connu pour avoir été peut-être l'homme le plus photographié des États-Unis. En tout cas, c'est le titre qu'on lui a donné et le titre qu'il a pris. En tout cas, l'acte de se faire représenter, d'exister sur l'image, de poser fièrement, était un acte politique, bien évidemment, du choix et de la liberté de pouvoir décider dans quel contexte et dans quel moment on se fait voir, on se donne à voir à la société. C'était, bien sûr, un de ces combats, la possibilité pour les Noirs américains, les Africains américains, d'obtenir un accès à ces studios de photographie. Donc le droit à l'image devient un combat politique, et ici ce que j'entends par la puissance troublante de la présence d'Omar Victor Diop dans ces images, c'est que Omar ne demande pas la permission, bien évidemment. Il s'impose et il se donne à voir, tout sourire, comme on a écrit précédemment, dans tout un tas de situations un petit peu absurdes parfois, un peu rigolotes. Il existe et il performe, il décide de tous les éléments et toutes les composantes de la manière dans laquelle il se présente au monde. Bien évidemment, encore une fois, c'est une performance, c'est un spectacle, c'est un rôle que prend Omar Victor Diop. Ce n'est pas Omar Victor Diop. Omar Victor Diop est né au Sénégal et n'a pas eu cette expérience ni dans sa famille aux États-Unis. Mais bien évidemment, les histoires sont indéniablement liées du fait de l'esclavagisme, de l'histoire de l'esclavagisme, bien évidemment.
Alors, dans l'interview conversation que l'on peut lire au début du livre, Omar Victor Diop dit « Il ne s'agit pas d'entrer dans un passé et de juger des gens qui ne sont plus là, mais de proposer à des yeux contemporains une fiction et d'écouter les réactions qu'elle provoque. Il faut qu'une image produise de la parole, qu'elle fasse éprouver des émotions. » Colère, étonnement ou amusement, peu importe. Ce travail a été exposé notamment à Paris Photo, je crois, début novembre. Est-ce que tu as eu des retours justement sur les réactions, puisque comme il parle de cet objectif de produire de la parole, de faire éprouver des émotions, est-ce que toi, depuis que tu es entrée dans le projet par cet angle pour le livre, est-ce que tu as un petit peu eu des retours?
Oui, je suis allée voir le stand d'Omar et Lee à Paris Photo, au Grand Palais Éphémère, en novembre. Je crois qu'en parlant aux galeristes qui accompagnent les deux artistes, la galerie Binôme et la galerie Magnin A, je n'ai jamais, ou j'ai très peu vu en tout cas, vu de stand aussi rempli de monde, curieux, ah oui. Curieux de cette collaboration, curieux de ces images. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Et si elles sont fausses, comment elles ont été prises? Ce ne sont pas des montages, ce ne sont pas des collages. Les artistes du projet n'ont pas souhaité à nous montrer la supercherie. Ils veulent justement nous la déguiser. On est dans, quand je vous disais plutôt, une production de cinéma, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur des effets spéciaux presque. Et donc, qui déstabilisent énormément les regardeurs, les visiteurs, qui, de manière bien entendu indéniable, se posent une foulée de questions sur le pourquoi et le comment de l'existence de ces images. certaines personnes tombent dans le panneau, d'autres pas, dépendant de l'âge, des connaissances, de la compréhension du contexte. Certaines personnes décodent très facilement l'époque, d'autres non. Un public plus jeune peut-être serait peut-être un peu plus dépassé par
oui.
la manière dont on peut, à travers les objets, à travers les vêtements, isoler une période. C'est formidable de voir le jeu, quelque part. Un ami me disait que c'était une sorte de « où est Charlie ?» mais retourné. C'est-à-dire que Charlie est tout à fait là, en fait. On le cherche pas, il est tout à fait présent, mais il revient à chaque page. Donc il y a quelque chose d'assez oui, de l'ordre du jeu, de l'ordre de l'amusement qui plaît beaucoup. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que ce jeu, cet amusement se transforme petit à petit peut-être en arrière un peu plus inquiet pour les personnages incarnés par Omar. On sait que, j'en ai mentionné quelques-unes durant notre conversation, des lois interdisaient ce genre d'interaction.
Alors, Omar Victor Diop dit aussi un peu plus loin quelque chose qui peut nous faire vraiment réfléchir. Il dit « Les images que nous avons conçues avec Lee sont l'incarnation d'un monde dont on aurait aimé hériter, avec plus de diversité, de mixité. Ce sont des scènes simples, spontanées, innocentes, qui ne sont pas chargées de cette tension raciale historique spécifique aux années 1960, qui ont vu les mouvements américains pour les droits civiques obtenir l'abolition des lois ségrégationnistes. » Et c'est vrai que c'est vraiment étonnant de voir ce sujet traité par cet angle-là. On a un peu l'impression que ce sujet, depuis plusieurs décennies, il a été tellement traité dans toutes les formes d'art. Et cet angle-là, il est vraiment étonnant et il est effectivement puissant, tout en ayant cette dimension un peu innocente, ce qui ne semble pas forcément compatible, et qui, comme il le dit, qui ne sont pas chargés de cette tension raciale historique spécifique aux années 1960. C'est vraiment, je trouve, une approche judicieuse et très dynamique par rapport à ce que ça provoque quand on est face aux photos, comme une formidable revanche, mais une revanche non violente. Et je me demandais, toi qui es historienne de l'art, quelle a été ta réaction lorsque tu as découvert le projet ?
J'ai donc été en fait contactée par Marianne Thierry, qui est donc la directrice et fondatrice des éditions textuelles, et ainsi que sa collègue Manon Lenoir. Et je crois que Marianne m'avait dit « Regarde les images et dis-moi ce que tu en penses, c'est un peu osé ». Je crois qu'elle avait utilisé ce mot-là. Et je pense que tu serais la bonne personne pour écrire sur ça. Et effectivement, c'est osé, c'est impertinent. Je crois que la valeur du rire dans la manière dont on peut parler de notre monde est tout à fait judicieuse. C'est une bonne manière de une fois qu'on a rigolé, on se sent peut-être plus détendu pour avoir ensuite des conversations un peu plus sérieuses et un peu plus difficiles. Oui. Le rire met tout le monde sur une position d'égalité. Il y a quelque chose de l'ordre du bienfait, en fait, du rire, de nous mettre tous sur une position d'avoir tous participé à une bonne blague. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a quand même inévitablement un deuxième moment de lecture. Et je crois qu'on est plus capable, bien plus capable d'accepter ce deuxième moment de lecture une fois qu'on est passé par le rire. Parfois, c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt, la question d'une stratégie pour venir cueillir l'attention dans un monde où notre attention est très dispersée, cueillir notre attention à travers le rire. Rigoler ensemble de quelque chose nous permet ensuite de pouvoir penser ensemble à une autre chose. Mais par contre, quelque chose que je trouve intéressant par ailleurs, c'est les contextes de réception des travaux. C'est-à-dire que pour le moment, le livre vient de sortir, je suis au courant de la réception plutôt française du livre. Et donc du coup, peut-être qu'il y a une plus grande comment dirais-je, plus grande simplicité à regarder les problèmes des voisins que les problèmes qu'on a à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, peut-être qu'il serait intéressant de voir la réception de l'ouvrage et des photographies et peut-être des expositions, s'il y a des expositions dans le futur, sur le territoire nord-américain et aux États-Unis plus particulièrement.
Oui. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais, c'est cette approche dont on parle, là, cet angle tellement intéressant, c'est très subtil aussi, je trouve. Toute la façon dont ils ont conçu là, les scènes, je ne sais pas trop comment appeler, ces mises en scène, en fait, dans chaque photo, il y a quelque chose de très délicat, de très subtil. Hein. On n'est pas dans la... C'est drôle, mais c'est très fin, je trouve. Et j'ai lu que Lee Shulman et Omar Victor Diop souhaitaient, pour leur part, respecter l'esthétique des instantanés originaux jusqu'à retrouver la texture de la surface des photographies et le grain exact des images. Et en fait, j'ai pris conscience en préparant l'interview, et j'avoue que peut-être parce que je ne suis pas experte en photographie, je n'en avais pas pris conscience à ce point du travail qu'il y avait de composition en amont pour arriver à ces résultats-là. Et il dit aussi, Lee Shulman, que le retoucheur Fred Moreau a réalisé le travail d'intégration afin de retrouver le grain exact, les niveaux de détail ou de flou, les contrastes et les niveaux de densité, les bonnes ombres. On n'imagine pas tout ce qu'il y a de travail en fait pour arriver à ce résultat, parce que j'ai re-regardé les photos après avoir lu ça, et je me suis aperçue qu'effectivement, il y a même les ombres, quand Omar Victor Diop pose dans une scène, donc ils ont reconstitué, pour pouvoir l'intégrer, et on a les effets de lumière, d'ombre, tout est... On ne voit pas la différence, on a vraiment l'impression qu'il était là au moment de la prise de la photo, c'est toute la réussite du projet, mais je me doutais pas qu'il avait fallu un tel travail. En fait, là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, non. Tout ça a été vraiment travaillé.
C'est bien évidemment tout le travail, que je dirais même titanesque, des équipes qui ont permis à la réalisation de ces images pour que ce soit le plus naturel possible. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est le dialogue fin pour eux entre extrême fiction et extrême réalité. Oui. C'est-à-dire que tout est absolument inventé, mais lorsque nos yeux se posent sur ces images, on a l'impression que c'est tout à fait vrai, que nous regardons une image trouvée à cette époque. Et c'est là tout le génie du projet aussi, je crois.
Oui, parce que même les regards, quand on les voit, puisqu'on le voit dans une piscine publique, en train de s'amuser avec d'autres personnes, il y a les scènes d'anniversaire, les scènes de vacances, il répare une roue de voiture. Et à chaque fois, les regards, ça a dû être très compliqué et long à mettre en place, parce qu'on voit les échanges de regards comme s'ils étaient vraiment côte à côte, comme s'ils étaient, quand ils sont attablés ou dans un pub, ils rient avec les personnes qui sont autour, il n'y a pas un moment où on sent un petit décalage, où on se dit « Ah là, il est, on voit qu'il a été rajouté. »
Non, non, bien évidemment. Et puis, il s'insère dans les scènes d'une manière tout à fait formidable, au point où il y a même un échange entre les personnages. J'ai là sous mes yeux une photographie d'un déjeuner de type un peu pique-nique d'une famille où Omar tend le bras pour attraper le sel. Et ce genre de petit geste, bien évidemment, l'intègre totalement et absolument dans la scène. C'est ça qui rend la chose encore plus folle.
Oui.
De se dire que... Parce que s'il était seulement juste à côté, peut-être que ce serait, on se dirait, ah, c'est peut-être plus simple. Mais, ou alors la scène où... en fait, Omar tient... Des poissons qui sont accrochés à une sorte de barre. Et pareil, le jeu de l'effort de tenir et d'être de l'autre côté de cette personne, c'est incroyable.
Donc, c'est un formidable livre. Je vais te laisser nous redire le titre, si tu veux bien.
Pourquoi ? À cause de l'anglais ?
Mais oui, parce que là, on est à distance, tu vis à Londres et donc ton anglais est tellement plus séduisant que le mien, je pense.
Donc, le projet s'appelle Being There.
Donc, Omar Victor Diop et Lee Schulman, c'est donc chez Textuel, 104 pages. Donc, vous pouvez retrouver le lien pour acheter le livre directement peut-être ou déjà consulter un petit peu les photos pour avoir une idée de tout ce dont nous venons de parler. Je vous mets le lien dans le descriptif du podcast. Le livre est sorti au mois d'octobre, donc c'est tout récent. Les photos, on peut encore les voir en vrai en France ou plus ?
Alors, je ne sais pas. Il faudrait regarder le site des artistes.
De la galerie.
Des galeries Mania A et Binôme. Mania A, qui est donc la galerie de Omar Victor Diop, et Binôme, qui est la galerie de Lee Schulman. Je suis sûre que, vu l'intérêt et la réception tout à fait positive du livre, qu'il va y avoir plein de projets d'exposition dans les mois et années à venir.
En tout cas, un grand merci de nous avoir partagé un petit peu toute ton approche d'historienne et aussi d'avoir participé à ce très beau livre chez Textuel. C'était un plaisir. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter pour So Sweet Planet parce que j'ai vu dans les sujets auxquels tu es régulièrement liée qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se recroiser.
Bah oui, mais avec grand plaisir.
Voilà, très bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.